Non, pas dans mon cas. Non? Pas dans mon cas. Ben non. J'étais déjà père de famille. J'avais déjà un premier bébé à 21.
OK.
Alors, puis j'en ai eu trois, puis là j'en ai eu quatre, puis j'en ai une quatrième. Alors, j'étais à mon affaire. Puis, par contre, je dirais qu'après, je te dirais, dix ans après la pub, là, ça allait très bien. J'avais une maison de film à Montréal. On produisait 80% des vidéoclips au Québec, entre autres.
OK.
Et là, j'ai senti qu'il y avait un vide. Et j'avais très envie de me tourner vers les technologies. Alors là, j'ai fait plusieurs projets. J'en ai listé deux en bourse au Canada. On a fait de l'intelligence artificielle linguistique au début, en 1997. On a fait toutes sortes de technologies. Puis je me suis découvert un plaisir fou à déposer des brevets d'invention sur des technologies, la plupart du temps, soit du auto-apprenant ou de l'innovation vraiment là, out of the box. Comme
OK. Mais tu te donnais, parce que souvent les gens vont dire, mais là, si je vais présenter ce type de projet-là, les gens ne me prendront pas au sérieux, j'ai pas les études en ingénierie, j'ai pas toutes les connaissances nécessaires. Toi, tu te donnais cette confiance-là en disant, regarde, moi, je vais le faire, puis ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme toi, là. Parce que la plupart des gens, moi, tu me dis, Yann... moi, je te verrai en techno. Ouais, OK, ouais, c'est le genre de choses qui m'aident. Mais j'ai pas à base de connaissances ouais, de ça, Louis.
C'est ça, mais moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est plus... je vais te donner l'exemple. Moi, j'ai inventé l'électrocardiogramme numérique sans fil. Un ECG numérique ouais. sans fil. Avec mon ami Jean-François Monplaisir. On a déposé le brevet, ça a été long, mais on l'a eu. Et évidemment, je n'avais pas fait d'études en médecine.
Ouais.
Par contre, j'avais la profonde certitude que c'était possible d'inventer des technologies qui intégraient le GPS et l'aspect médical. Alors, j'ai toujours gagné mon argent un slogan à la fois, et ouais. j'ai toujours économisé, et j'ai toujours pris pour acquis que si je pars un projet, il faut que j'ai de l'argent à risquer. Donc, c'est toujours sur cette base-là qu'on le fait.
Mm-hmm.
Alors, si tu n'as pas besoin des autres pour faire un projet, puis que tu as confiance en toi, et que tu acceptes d'avance que ce soit risqué, il n'y a pas de problème.
Ouais.
L'échec n'existe pas tant que tu n'as pas abandonné. Alors, c'est comme ça que je fais mes choses, mes projets. Puis, à travers les années en technologie, j'en ai fait, je ne sais pas, je dirais une douzaine de projets majeurs, dont celui du Géolagon aujourd'hui, qui est une innovation
ouais.
Qui est complètement en énergie, là, une innovation puis une nouveauté complète.
Puis, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que tu nous es arrivé avec le Géolagon. Puis, tu sais, de la façon dont tu m'en parles, j'ai tellement hâte d'aller voir puis d'être sur place puis de me dire, tabarouette, quand Louis parlait de ça, tu sais, il me l'imaginait puis je m'attendais pas à ce que ce soit ça. C'est tellement beau, je suis persuadé que ça va être un succès. Mais, tu sais, moi, c'est l'entrepreneur en toi. C'est le fait que tu t'embarques dans des trucs, des fois, en sachant dès le départ que ce sera vraiment pas facile. Tu sais, quelqu'un qui veut inventer quelque chose aujourd'hui, là, c'est complexe, Louis, là, parce que tu as l'impression que tout est inventé.
Oui, mais d'abord, c'est jamais facile. C'est toujours jamais. Difficile.
Ouais.
T'excuseras ma gorge. Hein,
veux-tu de l'eau?
Non, je suis allé courir une heure, puis il faisait froid. Puis là, je pense que j'ai pris un peu froid, mais ça me donne un petit côté margeau. Là, tu sais,
c'est ça. Hein, mais tu me disais tantôt là, que tu courais à peu près à 9 km/h. Ouais, tu t'en vantais, mais c'est ça, paye.
Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai toujours pris pour acquis que ça va être difficile.
Ouais.
N'importe quel projet, c'est difficile. Si c'était si facile, tout le monde le ferait.
Ouais.
Alors, quand je démarre un projet, que ce soit un projet d'intelligence artificielle, un projet de technologie, même du hardware, des objets, là, je me dis toujours, Louis, ça va être très difficile, mais ça va être très agréable. Le paysage est beau, le chemin est long, mais le paysage est beau. L'aventure est agréable.
Ouais.
Et ce qui va définir la qualité d'un projet puis la qualité du pilote dans le projet, c'est sa façon de réagir au quotidien. Moi, je me lève le matin, je sais que c'est un métier dangereux, je sais qu'il va arriver plein de choses dans la journée, et je dis toujours la même chose, je me couche fatigué, mais je me garde toujours alerte et prêt à régler des problèmes. Puis honnêtement, c'est la seule façon d'être heureux aussi dans un projet. Puis je crois, moi, personnellement, que le meilleur profil pour un entrepreneur, c'est d'être stand-by, qui prenne pour acquis que ça va être difficile, et c'est la façon de réussir. Qu'est-ce que tu as écrit de Rocky aujourd'hui sur Facebook, là?
Ah, tu l'as lu?
Oui, je l'ai vu passer tantôt.
Ça me touche quand tu fais ces affaires-là. Un moment donné, j'avais parlé de mes enfants, puis tu m'es revenu quelques heures plus tard, puis tu m'es revenu avec ça parce que tu as plus d'expérience que moi. Tu as eu tes premiers enfants, ton premier enfant à 21. Oui. Tu as vu les années passer, puis là, tu as rencontré un jeune père de famille qui parfois doutait, tu sais.
Ah oui, c'est
puis,
vrai.
Puis tu m'es revenu avec ça. Tu es un gars extrêmement sensible. Là, la phrase de Rocky, en fait, c'est quand il parle à son fils, tout simplement. Ah, moi, j'ai jamais eu. J'ai pas eu mon père très longtemps. Il m'a malheureusement décédé très jeune, ce qui fait en sorte que, tu sais, quand je vois ce genre de citation-là, je me dis tout le temps, peut-être que mon père m'aurait dit une affaire de même, tu sais. Puis ouais. La phrase de Rocky qui mentionne que, tu sais, toute ta vie, tu vas manger des coups, puis ce qui est important, c'est de te relever à chaque fois. Là,
c'est de savoir les encaisser,
ouais.
Puis de rester debout. Mais écoute, c'est la même chose dans le secteur de la santé. Puis
ouais.
Moi, je dis aussi l'autre chose, c'est que nos enfants nous regardent.
Toujours.
Alors, si tes enfants te regardent réagir quand il y a un problème, fais-toi-en pas que quand ils vont avoir un problème, ils vont faire la même chose.
Ouais.
Alors, si ils te voient dire il y a un problème, c'est pas grave, on va le régler, c'est normal d'avoir des problèmes, c'est que c'est comme ça, puis on va trouver la solution. C'est très cool. S'ils te voient péter une coche à chaque fois, puis que tu te sens pas bien dans ça, ben ils vont identifier le problème comme étant quelque chose de grave.
Ah, puis ils agissent par mimétisme aussi. Là. Ils vont réagir à de la même façon quelques années plus tard. Ta peur de l'échec, c'est quoi? T'as-tu dit, j'ai eu des échecs, toi, Lou Massicotte? Parce que, tu sais, quand on te jase, t'es très relax, les affaires vont bien. Ça existe-tu, l'échec avec Lou Massicotte?
As-tu déjà entendu parler de l'hormone de la peur?
Non.
J'ai lu là-dessus un peu. Moi, j'ai pas ça. Une fois, je m'étais fait attaquer dans un parc à Montréal. J'arrivais au terminus, ça fait très longtemps, puis quelqu'un est venu vers moi avec un couteau.
Ouais.
Et je ne ressens pas, je sais pas pourquoi, mais l'hormone de la peur ne m'habite pas.
Ce qui fait de toi un bon soldat. Bon,
puis, tu sais, j'ai eu, je suis sorti d'un cancer, j'ai eu des situations de santé. Et la peur, pour moi, c'est plus un stimulant. C'est-à-dire, je suis face à une situation dangereuse. Honnêtement, je suis reconnu pour mon calme et je fais de mon mieux. Et
L'adrénaline embarque-tu un peu?
Oui, mais c'est un stimulant.
Ouais, c'est ça.
C'est pas quelque chose qui va me paralyser. Puis concernant les échecs, oui. Et d'ailleurs, j'ai déjà donné une conférence qui s'intitulait « J'ai tellement appris de mes erreurs que ça m'a donné envie d'en faire d'autres ». Et oui, puis d'ailleurs, j'aurais des anecdotes à vous raconter. Des erreurs ridicules, une entre autres à New York qui s'est passée, qui m'avait fait perdre $1 million dans une négociation. Je me suis laissé influencer. Oui, j'en ai eu des échecs, mais à chaque fois, je me dis, Nelson Mandela disait toujours, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et cette phrase-là, quand on la réfléchit longuement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup à gagner dans une défaite, dans un échec. Et c'est toi qui décides comment tu le reçois. Et je te dirais qu'à chaque fois que j'ai soit échoué ou que j'ai eu des difficultés trop, trop grandes dans des projets, j'ai beaucoup appris de ça. Parce que je me rends compte que finalement, les plus beaux projets dans ta vie, c'est ceux qui vont se passer d'une manière un peu plus sweet que les autres. Tu vas tellement les aimer que tu vas être capable d'accepter les difficultés qui vont t'éloigner de l'échec. Si tu acceptes correctement les difficultés, tu vas t'éloigner d'échouer. Et donc... c'est ça.
Fait que c'est comme ça que tu fais face à l'échec. Parce que tout le monde vit ce type d'événement-là dans sa vie. Mais l'hormone de la peur, tu vois, ça, tu m'as donné le goût de lire un peu là-dessus. Parce qu'effectivement, tu sais, il y a des gens qui vont réagir, je ne sais pas, mais ils vont figer.
Mais ça ne s'appelle pas comme ça. S'écrouler. Ça ne s'appelle pas exactement comme ça. Là, mais je ne sais pas comment décrire ça, mais la peur réelle, comme on la voit souvent dans des films, ou comme on voit même... Ben d'ailleurs, ma théorie, c'est drôle, tu me rappelles ça. J'en ai parlé à un ami il y a quelques semaines. Ma théorie, c'est que moi, j'ai tout fait pour cultiver l'enfant en moi. J'essaie de rester un enfant de 5 ans qui s'émerveille de tout. Et quand on est petit, on n'a pas peur.
Oui, puis on voit les choses différemment.
En ski, en fin de semaine, à Stonehenge, j'ai vu des enfants rouler à des vitesses inimaginables. Je me dis, il n'y a pas peur, il n'y a jamais peur.
Ouais.
Puis, mais évidemment, moi, je suis prudent. Je suis une personne très prudente. Mais si j'arrive dans une situation grave, ce n'est pas la peur qui va dominer du tout. Je vais avoir peur pour les autres. Mais pour moi, non. Je sais pas. J'ai confiance en mon étoile, peut-être.
Il y a des. Ça, c'est sûr et certain. Tu as une certaine confiance en toi, puis je pense que ça l'aide beaucoup, puis ça l'a aidé à ta carrière. Il y a des gens qui nous écoutent actuellement, qui ont toujours eu idée de se lancer en affaires. Puis là, ils entendent Louis Mascotte, un entrepreneur qui a connu énormément de succès, le publicitaire, l'homme d'affaires, le spécialiste de marketing, le gars des géolagons, dont on entend parler énormément. Ces gens-là. Ils se posent toujours la question, tu sais, ouais, mais là, ça se peut qu'il arrive ci, ça se peut qu'il arrive ça. T'sais. On dirait qu'ils essaient d'appréhender des choses qui n'existent pas encore, puis que, tu sais, éviter de se lancer en affaires alors que c'est le rêve de leur vie, ça fait toujours et constamment partie de leur vie.
C'est triste.
C'est de l'évitement. Ben oui, c'est triste parce qu'on n'a pas l'impression de s'accomplir en tant qu'être humain.
Moi, je dis que, tu sais, quand tu t'investis, si je compare ça, je vais comparer ça à t'investir dans une relation avec, avec quelqu'un. Il faut que tu lâches prise à un moment et tu dis « OK, go, t'es ma partner, on y va. Okay, » Coûte que coûte.
Advienne que pourra.
Peu importe ce qui va arriver, on est ensemble, on le fait. Mais en business, si tu te lances dans un projet, il faut inévitablement que tu arrives au moment où tu dis « Je fais un saut dans le vide. Je traverse le miroir. J'y vais. » Et il faut se faire confiance. Il faut surtout faire un plan. Le plan est extrêmement important. Le danger d'un plan, c'est qu'on le suive trop et qu'on ne puisse pas s'adapter, s'ajuster à des situations parce que le contexte change sans arrêt, surtout particulièrement, si je compare à ce que c'était au début des années 2000 à aujourd'hui, il y a plein de situations qui viennent changer complètement ton plan, puis il faut que tu sois capable de te faire confiance. Un peu comme des fois, je parle des pilotes de course, là, ils vont avoir la capacité de tourner le volant d'un centimètre juste assez pour passer, puis s'ils l'avaient fait d'un centimètre et demi, ils sont morts. Alors, il y a quelque chose, il y a de l'intuition, il y a de l'instinct. Mais moi, je dis aux gens, si tu veux partir en affaires, si tu as un projet qui te fait rêver, tu as une vie. Go, essaye-le.
Ouais, puis engagez-vous.
Risque ce que tu peux perdre. Risque pas plus.
Ouais.
Alors, équipe-toi des moyens et fais en sorte que tu puisses perdre seulement ce que tu es capable de perdre. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se dire... Je vais perdre tout ce que j'ai, je vais perdre la moitié, mais il faut juste prendre cette décision-là parce que ça va avec. Et il ne faut jamais prendre pour acquis que ça va bien se passer. Ça va être difficile, c'est sûr.
Puis c'est l'engagement aussi de s'engager totalement à quelque chose. Puis tu sembles, quand tu embarques sur un projet, c'est le cas des Géolagons, tu t'engages totalement dans ce projet-là. T'es là du début jusqu'à la fin. Puis bon, à un moment donné, on a vu passer dans l'actualité des gens qui étaient plus ou moins certains de ce projet-là, qui n'avaient pas un gros pouvoir décisionnel, mais qui se prononçaient là-dessus sans nécessairement connaître le projet. Et je me suis dit, mauvaise presse sur un projet, mais la personne n'a même pas pris la peine de te rencontrer, tu sais, pour te dire, Louis, tu peux-tu venir avec nous autres dans nos bureaux? Nous autres, on est des maires de telle ville.
Viens nous raconter
on
ça.
On aimerait ça que tu nous racontes un peu. C'est quoi l'affaire Géolagon? Ça a l'air complexe parfois de faire affaire avec
chanceux.
Certains individus.
Ben oui, c'est très complexe. Puis il y a des gens qui sont agressifs. Il y a des gens aussi qui ont besoin d'aide. Là. Je suis sérieux. Il y a des gens qui deviennent agressifs, des gens qui vont même soit faire des menaces ou tenir des propos complètement inacceptables.
Ah, oh, t'as vécu ça?
Ben oui, évidemment. Mais moi, ma réaction, c'est toujours de dire, écoute, je vais t'aider, mon chum, là, ça se peut pas. Là. Tu peux pas devenir agressif comme ça, menaçant, puis être heureux. Là. Il y a quelque chose qui va pas. Mais ce que je me dis, moi, c'est quand les gens parlent du projet, puis d'un projet que je fais, puis qu'ils ont pas une bonne opinion, je me dis tout le temps, crime, je suis chanceux, parce que ce projet-là est au cœur de l'actualité. Tout le monde, personne n'est indifférent.
Ah non, il n'y a personne qui est indifférent.
Si personne n'est indifférent, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici là, qui attire l'attention, qui mérite donc d'être analysé. Et moi, j'ai tout analysé avant d'en parler. Donc, je sais de quoi je parle. Et pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le Géolagon, parce qu'on jase de ça, personne n'a entendu encore, c'est la... Excusez-moi, ma gorge, hein, c'est mon jogging. C'est la construction donc d'un immense lagon, une piscine dans laquelle on peut se baigner, qui est un grand jacuzzi de 120 000 pieds carrés, autour duquel, finalement, ça devient un peu comme un lac chauffé, autour duquel je construis 612 portes d'habitation qui deviennent des chalets que les gens peuvent mettre sur Airbnb. Les gens achètent les chalets auprès du constructeur désigné que je désigne. Et je construis donc l'attraction Géolagon, qui est un lagon solaire et géothermique. La grande différence de ce projet par rapport à n'importe quel autre projet touristique, c'est qu'il est carboneutre, qu'il va générer plus d'énergie qu'il en consomme, qu'il peut fonctionner grâce à la géothermie, à l'énergie solaire thermique et photovoltaïque, grâce à la biomasse et grâce à un brevet que j'ai déposé à Washington, un brevet d'invention, qui est un accumulateur de chaleur, un réservoir thermique piscinier qui est caché au milieu du village, qui est en dessous du lagon. Et cette boule de chaleur gigantesque, elle génère toute la chaleur et la climatisation, parce qu'on peut prendre du chaud, faire du froid, prendre du froid, faire du chaud.
Mm-hmm.
Donc, toute l'énergie nécessaire au village vient de cette boule de chaleur au centre. Et c'est ce qui permet de faire un immense jacuzzi grand comme un Walmart.
Tu vas être totalement indépendant, là. Tu n'auras pas besoin d'aide extérieure. Mettons, Hydro-Québec, tu n'auras pas besoin de ça.
On n'a absolument pas besoin d'Hydro-Québec. Par contre, Hydro-Québec va être rendu pour deux raisons. Si jamais il y avait un problème technique majeur, et la deuxième raison, c'est que puisqu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme, on va pouvoir l'offrir à la communauté. Alors moi, je te confirme aujourd'hui, puis c'est drôle parce que j'étais supposé faire une entrevue hier avec un média, puis ça a été annulé pour des raisons techniques. Je te confirme aujourd'hui que la quantité d'énergie, d'électricité que le village et Haut-Lagon va produire est assez importante pour fournir une petite ville de 4000 de population. Ce qui signifie que non seulement un village et Haut-Lagon va marcher de manière autosuffisante en énergie autoproduite, dans un mode infini. Infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le revêtement extérieur de nos maisons, c'est du Clabor ou du Maybeck, bon, c'est pas ça la marque, mais le revêtement extérieur, il est constitué de cellules photovoltaïques qui captent l'énergie solaire. Il va produire de l'énergie. Cette énergie va contribuer à chauffer le lagon et le grand réservoir thermique au milieu du village. Et inversement, c'est le lagon et le réservoir qui, lui, va chauffer les maisons. Donc, les maisons chauffent le lagon chauffe les maisons chauffent le lagon, et ainsi de suite, en cycle infini. Non seulement, donc, on va être autosuffisant, mais une étude qui a été faite tout récemment sur toutes mes autres études confirme une quantité exceptionnelle de kilowattheures qu'on va pouvoir retourner à la communauté dans le réseau d'Hydro-Québec. Bien sûr, on pourra leur offrir. Et ça, ça peut permettre éventuellement mon vrai rêve, qui est celui de la cité, Géolagon, de faire un village touristique et à côté, de créer aussi un village résidentiel. Et ça marche tout seul, grâce aux énergies de la terre et du soleil.
Comment on peut être contre ce type de projet-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes qui ont quand même un certain pouvoir décisionnel là, peuvent dire « ben moi, ce type de projet-là, ça ne m'intéresse pas », alors qu'à mes yeux, à moi, ça représente un peu l'avenir. Tu sais, je pensais qu'on allait avoir peut-être ça dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Mm. Puis là, ben, toi, tu sembles l'offrir là, maintenant. Comment on peut être contre ça, Louis? C'est qu'on a peur du progrès?
Il y a plusieurs choses. Je vais te le dire, on est en privé.
Il n'y a personne qui écoute.
On n'est pas à radio.
Ah non, on n'est pas à radio le soir, à boulevard, sur une antenne qui griche à certains endroits.
Il y a des gens qui défendent des principes ou des intérêts.
Ouais.
Si, par exemple, je vais te donner un exemple, tu es en Abitibi, OK, on va essayer de prendre une région qui ne me concerne pas. Tu es en Abitibi, tu es député, puis toi, tu protèges les hôteliers d'un territoire.
Ouais.
Ces hôteliers-là, ils n'aimeraient pas ça qu'un village s'installe avec plein d'Airbnb, parce que ça va leur prendre des clients peut-être. Donc, toi, comme député, tu vas dire, hey, on va essayer de s'objecter à ça.
Mm-hmm.
Il y a aussi même des environnementalistes, parce qu'en passant, le projet Géolagon, il a gagné, ça a été décerné à Philadelphie, le Sustainability Award Initiative of the Year. L'initiative de l'année à l'international, c'est le village Géolagon qui l'a gagné, devant des ministères de l'énergie du Qatar, devant des multinationales. Là, il y avait Pepsi, il y avait Ford, je pense. Écoute, c'était toutes des grosses compagnies. Quand j'ai vu la liste puis j'ai vu que j'étais en nomination, on a dit que c'est formidable, mais j'aurais jamais pensé qu'on allait gagner. Mais on a gagné. Et crois-le ou non, il y a aussi des environnementalistes, même si on est carboneutre, même si on utilise 100% des énergies renouvelables, même si Hydro-Québec a interpellé le gouvernement du Québec tout récemment pour dire que les accumulateurs de chaleur, mon réservoir en dessous de la piscine,
ouais,
c'est un accumulateur de chaleur. Hydro-Québec a dit au gouvernement du Québec, s'il vous plaît, faites tout pour favoriser les accumulateurs de chaleur et la géothermie. C'est ce que je fais. Puis j'ajoute le solaire. Le solaire qui est le grand oublié, la grande oubliée dans les énergies renouvelables, c'est le solaire au Québec puis au Canada. Donc, moi, c'est vers ça que je vais, c'est vers ça que je me tourne. L'autre réponse à ta question, il y a des gens qui, par principe, ont décidé qu'il ne faut pas qu'il y ait de développement, il ne faut plus qu'il y en ait. il y a beaucoup plus d'êtres humains, il y a plus de gens au Québec puis dans le monde entier.
Ouais.
Mais il ne faut pas qu'on développe.
En fait, ils veulent densifier. À Québec, exemple, là, lorsqu'on va avoir le fabuleux projet du tramway et le fabuleux projet du troisième lien, ce qu'ils veulent faire, c'est bâtir peut-être un peu plus en hauteur dans les endroits où le tramway passe, ce qui semble être une logique. Là. Mm-hmm. Parce que là, tu bâtis en hauteur, tu ne prends pas d'expansion. Mais de dire que quand on regarde le Québec, là, c'est densifié, ça ne l'est pas. Là. C'est pas densifié. Québec, c'est une grosse, grosse forêt. On a en masse d'arbres. Cela dit, il faut faire attention aux belles ressources qu'on a. Mais quand on a ce type de projets-là qui sont futuristes, sont indépendants, qui consomment beaucoup moins que ce qu'on pourrait consommer avec l'énergie d'Hydro-Québec. Là. Je veux dire, toi, tu prends l'énergie solaire. Là.
C'est ça. Mais je comprends les gens qui peuvent avoir peur de la nouveauté. D'abord, ils vont avoir peur de la nouveauté en se disant « ça se peut pas ». Ça, c'est la phrase numéro un que j'ai reçue tout le temps, puis ça me fait beaucoup... Ça me motive.
Comme moi, si tu n'aurais pas pris la peine de faire vérifier et contre-vérifier tes affaires.
Mais il y en a des clowns. Il y en a beaucoup des clowns. Qui vérifient pas leurs choses, qui vont lancer un rêve puis qui le feront pas. Puis Mais moi, j'ai fait faire tellement d'études que j'ai même fait faire, comme je te disais il y a quelques instants, une étude à propos de toutes les études que j'ai fait faire pour les revalider complètement. Alors, ça, c'est une chose. En bout de ligne, ce que moi, je pense, c'est que j'arrive avec une idée qui ne laisse personne indifférent. Pourquoi? Parce que ça va être le tout premier village autosuffisant en énergie au monde qui est carboneutre et qui intègre un modèle collaboratif entre toutes les maisons d'une même ville ou d'un même village. J'essaie de le simplifier quand je l'explique, mais ce que je veux dire à tout le monde, c'est que depuis le 6 septembre 2022, une étude des ingénieurs d'Aconovia a confirmé, assurément, une étude préliminaire, mais qui a confirmé qu'on ne remet pas en question le principe d'autosuffisance, ça va l'être. Récemment, j'ai eu l'autre étude qui vient dire « ça va être autosuffisant, mais en plus, ça va être producteur d'électricité supplémentaire, une énergie solaire. Donc, il y a quelque chose d'important dans ça qui peut se passer. Mais je comprends que des gens peuvent remettre ça en doute. Mais je crois personnellement que étude après étude après étude après étude, chaque fois qu'une étude est publiée, il y a 10 % des gens qui se disent « Ah, OK, c'est correct. » Puis à un moment donné, après 10 fois, il n'y en a plus. Donc,
je comprends.
On est rendu... Puis il faut être patient, il faut persévérer, puis on est rendu à la fin. Écoute, j'ai une anecdote à te raconter. Au début des années 2000, j'ai inventé le bracelet GPS pour les Alzheimer, qui était en fugue. Ma mère, adoptive, était Alzheimer et elle se perdait dans l'hiver au Québec à Beauport. J'ai lancé le bracelet GPS pour les fugues Alzheimer en Europe. Pourquoi? Parce que le GSM était plus petit que le CDMA. Le territoire était complètement couvert par les réseaux cellulaires, alors qu'au Québec et au Canada, ce n'est pas couvert en entier. Je l'ai lancé là-bas. Je l'ai lancé, j'ai ouvert un bureau à Paris, à Londres et à Madrid. Lorsqu'on a lancé ça, il y a eu un débat, un vrai débat dans l'actualité. Les gens considéraient que j'étais un Big Brother. OK, Big Brother, mais à Paris, c'est un Big Brother. Big Brother. J'étais une mauvaise personne qui voulait porter atteinte à la vie privée des personnes âgées.
Ah!
Parce que je voulais les suivre à la trace. Là, je me suis retrouvé à TF1 aux nouvelles. je me disais, c'est presque ridicule. C'est un dîner de cons, cette affaire-là. Et là, je disais, OK, donc, les gens préfèrent qu'on laisse au pied d'un arbre une vieille personne perdue dans la forêt. On préfère la laisser mourir que mourir et souffrir pendant plusieurs heures, plusieurs jours, tiens. On préfère ça à la retrouver en quelques minutes grâce à un signal GPS. Et des gens disaient, oui, la vie privée, c'est sacré.
Ah, c'est de la folie.
Mais tu vas toujours avoir des gens qui ont une opinion différente. Oui, et moi, je les écoute tous et je fais exactement à ma tête.
Oh, exact. Ben, c'est ce qu'il faut faire, tu sais, mais... Tu sais, c'est des gens qui ont lu quelque chose quelque part, qui n'ont pas pris la peine d'y réfléchir puis qui font juste le répéter. Tu sais, comme il y a énormément d'étudiants qui sortent des universités qui répètent la même affaire, mais t'as-tu pris conscience là, de la valeur de cette phrase-là? Parce que j'ai jasé avec un grand philosophe. Là. Je pense qu'il est né avant Jésus-Christ, il s'appelle Christian Page. Puis c'est l'enquêteur du paranormal. C'est un de mes amis à moi que j'adore. Puis on parlait de l'opinion en général, tu sais, la valeur d'une opinion. Puis on se fait régulièrement dire que toutes les opinions millions se valent dans le monde, alors que c'est totalement faux. Et quand des échevins se prononcent sur quelque chose, sur un projet qu'ils peuvent avoir dans leur municipalité, dans leur communauté, puis on se rend compte qu'ils n'ont aucune idée du projet, ils font juste être contre le projet, ben moi, à mes yeux, à moi, c'est pas une opinion qui se vaut. Là. Elle a le droit de donner son opinion, mais c'est pas une opinion qui se vaut. La valeur de ton opinion va dépendre de la connaissance que tu as, de l'expertise que tu as par rapport à tel ou tel sujet. Tu sais, j'ai plus tendance, mettons qu'on parle de la COVID, mettons, c'était à la mode, c'était un beau sujet. La COVID.
Tout le monde devient spécialiste, soudainement.
Ben, tout le monde est spécialiste, mais moi, j'ai plus tendance à écouter les gens qui sont médecins, les gens qui sont microbiologistes, les chercheurs, qui, eux, me disent, cette bête-là qu'on n'est pas capable d'anéantir complètement, ben on fait une étude au jour le jour. Ça se peut qu'il y ait des choses qu'on fasse qui n'aillent pas nécessairement bien, mais ça se peut que des choses qu'on fasse qui aillent bien. Ces gens-là ont une opinion, mais c'est une opinion qui est éclairée, puis c'est basé sur quelque chose. Tandis que des échevins qui disent, non, mais ce projet-là, là, ça va couper des arbres. Ben, mais avez-vous voulu le projet?
Ils disent ça, puis sont assis sur leur patio. Là.
Exact. Donc, leur opinion ne vaut rien.
Oui, mais j'aimerais ça te dire que sur 100 opinions, moi, il y a des gens qui sont opposés à mes projets dans ma vie. Et j'ai toujours dit que ces gens-là étaient mes meilleurs amis, même s'ils m'attaquaient. Parce que ça m'oblige à remettre en doute mes décisions et mes projets, à les revalider. Puis des fois, ils m'amènent à modifier certaines choses parce que je me rends compte qu'ils ont en partie raison sur des choses. Et souvent, ce n'est pas l'opinion comme le ton sur lequel elle est livrée. Par ailleurs, la question de l'opinion, tu sais, toutes les opinions se valent ou tous les citoyens se valent, j'ai le goût de... je suppose qu'on a du temps, là, mais j'ai quelque chose à raconter.
Okay.
J'avais, de façon très courte, ouvert... j'avais, en fait, deux employés à Beijing, à Pékin, en Chine. J'étais avec eux, puis... On discutait sur un projet absolument exceptionnel. Là, c'était de l'intelligence artificielle avec du traitement linguistique. Et un jour, on marchait sur place Tiananmen et c'était deux gars qui avaient étudié à Princeton, mais c'était des Chinois purs. Et ils m'avaient dit, c'est ici que les étudiants se sont suicidés. Et là, j'avais regardé, j'avais dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, les chars d'assaut avaient passé sur le corps des étudiants. Ici, c'est ici qu'ils se sont suicidés. Et là, j'étais avec ma blonde. Là, j'avais dit, c'est pas comme ça du tout qu'on a vu ça, là, nous.
Ben non.
Puis les deux gars, très intelligents, m'ont expliqué que c'était assurément un suicide, parce que c'est impossible qu'un char d'assaut de l'État chinois arrête. Là, on parle pas d'opinion. On parle de...
d'endoctrinement.
Écoute, c'est... Ben, OK, parfait. Parfait. J'ai quelque chose à te raconter à ce sujet-là. Ils me disent, vous autres, Louis, là, la démocratie, là, c'est comme ça que vous choisissez vos leaders. Je dis oui. Puis moi, ben, je trouve ça intéressant, la démocratie.
Ouais.
Et là, je m'en vais sur un terrain glissant. Je suis parti.
Ah ouais, ça brosse.
Il dit, nous, on trouve que la démocratie, c'est un concours de popularité. Puis on trouve ça dangereux, la démocratie, parce que c'est un concours de popularité. Ça veut dire que vous pourriez élire quelqu'un d'incompétent qui n'a aucunement prouvé sa compétence et son expertise pour gérer le pays au complet.
Est-ce que c'est là que tes dents ont tombé?
Non, attends la suite. Attends la suite. Il me dit, nous, dans le système chinois,
ouais,
tu commences par être maire ou mairesse, mais c'est des maires, c'est des hommes dans leur système. Tu commences par être maire d'une petite municipalité. Si tu n'as aucune faute, tu vas pouvoir devenir maire ensuite d'une municipalité de 1 million. Si tu as un parcours parfait, tu vas pouvoir monter à 5 millions. Après ça, tu vas diriger une région. Puis à la fin, quand tu as démontré ton exceptionnelle compétence, tu vas finir à la tête du pays.
Ouais.
Et tu vas avoir un parcours parfait, ce qui va te distinguer de tous les autres. Parce que tu vas avoir réellement démontré ton expérience et ta performance et ta compétence. Et lui, il me dit, pendant ce temps-là, vous autres, vous pouvez élire un acteur dans un concours de popularité ou pire encore, quelqu'un qui a de l'argent puis qui a payé pour essayer d'avoir plus de votes.
Ouais.
Là, tu t'assois le soir, tu ouvres, tu prends ta bière.
Tu réfléchis, là.
Là, tu te dis, OK, c'est une autre façon. Donc,
ouais. Cela dit, on met pas en valeur le système communiste, mais c'est juste la façon, la hiérarchie, la façon dont les politiciens sont montés qui semble être extrêmement intéressante comparativement à notre système à nous.
Oui, mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, leur opinion, elle était valable et structurée.
Éclairée.
Ouais. J'irai jamais là, mais en même temps, je suis obligé de te dire que ça me shake un petit peu, ça me secoue parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de défauts aussi dans la démocratie.
Ben oui.
Alors, s'il m'avait dit tout ça avec agressivité, je ne l'aurais pas considéré. Ils me l'ont expliqué avec un calme, puis les Chinois sont très rationnels, là, souvent, des Chinois, je ne veux pas généraliser. Mais à la fin, quand tu portes une opinion, il faut, oui, qu'elle soit fondée sur des faits, puis il faut ensuite que tu puisses élever ton langage pour le rendre acceptable. On a une job de vente à faire dans ça quand tu prends une opinion. Alors moi, quand je fais un projet comme celui du Géolagon, je sais très bien que j'arrive dans une région. En ce moment, on a 4 régions de ciblées au Québec. Là. Ce sont des projets de presque un demi-milliard dans chacun des cas.
Tu en as 2 d'annoncés.
Laurentides, Lanaudière, Estrie, Charlevoix. Ce sont les 4 pôles. Okay. Tout ça, c'est toujours à moins d'une heure, soit de Montréal ou de Québec. Dans le cas de Québec, bien sûr, c'est Petite-Rivière-Saint-François. On a un terrain de 12 millions de pieds carrés qui se trouve entre l'entrée du massif et le Club Med. C'est juste en haut de la côte principale, quand tu descends pour aller au Club Med ou sur le bord du fleuve. C'est le terrain en face d'intersection. Un très gros terrain qui est à revitaliser. Ce terrain-là a déjà été déboisé beaucoup, beaucoup pour bûcher. Il y a là un ancien segment tronçon de la route 138 qui passe sur le terrain. Mais ce terrain-là, il est idéal pour faire ça, puis il est déjà zoné, compatible avec ce type de projet-là. Alors, moi, j'avais décidé au mois de juin d'annoncer l'investissement et j'ai dit aux gens, j'annonce l'investissement, mais je donnerai les détails à tout le monde lorsque j'aurai notamment des études, les résultats de nos études qui sont en cours. Et surtout, j'étais en processus de brevetabilité. Donc, je devais me taire. Si tu parles d'une invention publiquement, avant d'avoir fait un dépôt officiel, tu peux être contesté.
Oh!
Donc, ferme ta boîte.
Parfait. Parfait. Puis là, est-ce que c'est vendu à combien de pourcentage là, dans les différentes régions?
Dans le cas de Charlevoix, pour que les gens comprennent bien, la façon dont je finance mon attraction, qui est un lagon géothermique et solaire chauffé à 38 Celsius, même l'hiver, la façon dont je le finance, c'est que je vends des chalets qui sont autour du lagon. Ça peut être des chalets ou des moitiés de chalets. Donc, ça peut être le deuxième étage ou le rez-de-chaussée.
OK.
On a, dans le cas de Charlevoix, 80% de prévente. C'est un projet qui va finir autour de 400 millions de dollars.
Tout ça, c'est notarié?
Tout ça, ça intègre actuellement un dépôt chez le notaire, en fidéicommis que je ne touche pas, jamais, on ne peut pas toucher à ça. Et ça inclut aussi la signature des acheteurs qui confirment qu'ils disposent d'à peu près 300 000 $ de liquidité pour faire l'acquisition. Ça peut être moins si c'est une unité, par exemple, de 600 000 $ mais à ce moment-là, c'est 150 ou 200 000, je crois. Donc ça, c'est prévendu, et c'était beaucoup prévendu avant même qu'on dise que ça allait être à Petite-Rivière-Saint-François. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être à Stoneham ou ailleurs. Donc, on a le même phénomène dans les Laurentides à Montréal. On a le même phénomène en Estrie. Et là, j'ai ajouté la 4e région, qui est Lanaudière. Et ça va très bien.
OK. Pour les gens qui entendent parler du Géolagon puis qui n'ont pas encore été voir sur ton site web, peuvent y aller de quelle façon?
Géolagon.
Géolagon.com.
Mais vous allez voir que dans le cas de Google, le SEO est tellement nourri. On a eu, depuis le mois de septembre, quand on a gagné le Sustainability Award, quand l'étude d'ingénieur a été dévoilée, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Premièrement, j'ai dévoilé le prix design architectural de notre lagon puis de nos maisons. Il y a tout un look futuriste dans ça. Puis honnêtement, je suis très, très fier de ces dessins-là. Il y a entre autres le Infinite Building. J'ai dessiné un édifice, le pavillon principal dans l'eau est en forme de symbole de l'infini.
Okay.
C'est la moitié du symbole de l'infini qui reflète dans l'eau. Et ça vient illustrer, si tu veux, l'énergie, l'écosystème énergétique infini que j'ai mis en place. Et donc ça a attiré énormément de médias de design en Italie, dans plein de pays. On s'est retrouvés, en fait, avec 200, je dirais, on est rendu peut-être à 250 articles dans les journaux du monde entier, en 25 langues, qui notamment expliquent le concept de l'invention du village autosuffisant en énergie naturelle.
Okay.
Et j'ai eu la chance que ça attire l'attention de l'éditrice en chef du magazine de l'American Society of Civil Engineers, qui est le magazine de la Société américaine des ingénieurs civils. Ils m'écrivent. Je dis oui, allô. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de l'étude d'ingénieur? Ça nous intéresse. Là, je dis oui, certainement. Moi, pour moi, je savais que c'était un test, là.
Oui.
Alors, j'envoie l'étude.
Silence. Ça, faut-tu que tu leur fasses signer des trucs comme quoi?
Oui, mais je le fais pas.
Tu le fais pas.
Oui, mais je le fais pas. Je fais confiance.
OK.
Pff, fait que...
ben, je sais pas. Moi, alors, j'aurais l'impression de détenir quelque chose que je voudrais pas que quelqu'un me vole.
Je l'ai envoyé, puis en même temps, c'est des ingénieurs. Ouais. Ils comprennent. Puis moi, j'ai écrit je refuse que ce soit publié sans mon approbation.
OK.
La documentation. Et j'ai pris la peine, je me souviens, d'écrire. Par contre, toutes vos opinions, vous êtes libres. Exprimez-vous. Deux semaines, silence radio. Là, je me dis, coudonc, c'est-tu tombé?
Ils ont-tu trouvé de quoi?
Elle m'écrit pour me dire qu'ils ont fait un comité, qu'ils ont passé à travers et qu'ils ont décidé de publier. Alors, si vous faites American Society of Civil Engineers puis J.O. Lagoon, parce qu'en anglais, j'ai les deux marques de commerce déposées mondialement, ça, c'est pas cher. Et donc, si vous faites J.O. Lagoon, ils ont publié un article dans lequel ils expliquent tout le système scientifique. Moi, je ne suis pas un scientifique, mais je suis un concepteur. Ouais. Je suis une personne extrêmement curieuse. Puis si je m'intéresse demain matin à quelque chose, je vais tout lire et je vais aller chercher même des textes dans d'autres langues, puis je vais les traduire. Puis si c'est en arabe ou en japonais, tu peux être certain que je vais passer à travers si ça m'intéresse.
Okay. Ils trouvent comment? Est-ce que c'est toi qui leur envoie, je ne sais pas moi, de l'infolettre par rapport au géolagon, puis à un moment donné, tu as du retour?
Jamais.
Ou ils lisent des articles, ils se les font traduire peut-être, puis ils
rejoignent. Ce qui est arrivé, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que... En fait, j'ai découvert, puis tu sais, je suis dans la cinquantaine, puis j'en ai fait des opérations de communication dans ma vie. J'ai découvert comment... et j'ai vécu le phénomène. Comment tu peux te retrouver soudainement dans l'actualité scientifique à l'échelle internationale, dans plusieurs alphabets, dans 20-25 langues? J'ai fait usage dans ça de plusieurs choses. Il y a eu beaucoup de social media.
Ouais.
Il y a eu, bien sûr, communiqué de presse, français, anglais, et j'aurais pu le faire en plusieurs langues, comme je l'ai déjà fait dans le passé. Tu peux publier en allemand, tu publies en plein de choses. Mais la vraie affaire, c'est qu'un jour, il y a un média important qui attire l'attention sur ton projet. Et là, ça déboule. Mais ça déboule très vite parce qu'ils sont suivis, ces médias-là. Ils sont suivis par les autres médias. Et j'ai une agence de presse qui fournit les plus grands médias, la BBC, entre autres, à Londres, qui m'a demandé de céder les droits sur nos images sur l'invention du village Géolagon et sur les bâtiments. Et ils se sont mis à vendre aux agences de presse et aux médias à vendre mes images. J'étais un peu... Évidemment, ils ne me donnent pas un sou.
Non.
Mais moi, je suis très content parce que finalement... Mais quand un journaliste écrit... par exemple, je me rappelle, on a eu beaucoup d'articles en Russie, en Slovénie, on a eu beaucoup d'articles en Roumanie, en Italie, en Allemagne, tout ça. Eux, là... Et minuit moins deux, il faut qu'ils livrent leur article, puis ça leur prend la photo officielle.
Ouais.
Ils peuvent m'envoyer un courriel, mais ils vont-tu le recevoir? Tandis que là, ils vont sur un site web qui est une agence de presse qui vend les images. Et ils la download full qualité HD, puis ils payent un frais. Ça a fait en sorte que ça s'est retrouvé, entre autres, dans le journal financier le plus lu de Taïwan. Mais c'était pas des petits articles, là. Des grosses affaires. Je me suis retrouvé dans Rob Report. Rob Report, c'est le magazine des milliardaires sur la planète.
OK.
C'est inimaginable la façon dont ils ont traité le dossier. Alors, quand ça roule, à un moment donné, tous les matins, je dirais en octobre, pendant le mois d'octobre 2022, tous les matins, je me levais, j'avais entre 7 et 10 articles par jour dans 3-4 langues.
À un moment donné, il y a un cheikh arabe qui va descendre à Québec, à l'aéroport Jean-Lesage, puis qui va venir tout t'acheter.
C'est pas avant.
Ah, tout le monde est pris.
J'ai très envie de... Je pense que je vais te le raconter.
Tout le monde est pris,
on a-tu le temps?
Hey, on va prendre 2 minutes, après, il faut que je fasse une pause, parce que sinon, ils vont me chicaner.
Parfait.
T'as-tu un prix?
On est-tu en onde?
Ben oui, on est en onde.
On est-tu sur Twitch?
Non, on n'est pas sur Twitch.
OK. On est en onde?
On est en onde.
OK. OK, je vais te dire un grand secret.
Y a-t-il un cheikh arabe qui est débarqué à Québec?
Non. Hier, hier matin. C'était le...
On était le 12.
Le 16.
16.
Le 16 janvier. J'ai eu un long rendez-vous avec un milliardaire très connu. Qui est pas...
Est-ce qu'il habite sur une île
Non.
Il est avec des grenouilles, non?
Et on a eu une très longue discussion. J'étais honoré parce qu'il y a un profil vraiment particulier qui m'intéresse beaucoup, cet homme-là.
OK.
On a discuté plus d'une heure. Et j'avais dit au début de la rencontre que j'étais en train de finaliser, de structurer mon financement dans le projet. Ça va très bien. Tout peut arriver. C'est très dangereux, le métier d'entrepreneur. Je ne dis pas que... Là, en ce moment, à cette heure-ci, tout va bien.
Ouais.
Alors, je lui dis, écoutez, puis ça se passe en anglais, j'ai dit, écoutez, je veux vous dire d'abord que je suis ouvert à un financement sous forme de prêt, mais que je n'ai absolument pas l'intention de partager l'actionnariat ni dans l'opération immobilière de mes villages, ni dans l'opération de l'attraction en soi. Et là, on parle. Puis là, ben, il me valide tout. Mon modèle d'affaires, il est généreux. Il dit, t'as fait ça comme ça, c'est parfait, j'aime ça, tout ça, tout ça, tout ça. Puis là, à la fin de la conversation, au moment où je pense qu'il me dit, OK, it's a go, je vais te faire une proposition pour le financement, il me dit, ça va être en équité. Donc, je vais avoir des actions. Là, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent là, peuvent comprendre, mais tu as devant toi une personne qui a beaucoup... C'est pas l'argent qui compte là, dans son cas, c'est son profil.
Ouais.
Okay, il a étudié à Harvard, il a fait des succès fantastiques. Puis moi, je suis très honoré parce que ce qu'il est en train de faire en ce moment, il me fait une consultation gratuite, puis il est en train de me dire que ça marche ton affaire, mon Louis. Parfait. Et j'ai eu comme réflexe de lui dire, je veux vous le répéter, je ne céderai jamais d'action. C'est non. Est-ce que tu sais le courage que ça prend?
Ben, j'imagine que t'as vu toute ta vie défiler devant toi, t'as pensé à tes quatre enfants, t'as pensé à ta conjointe.
Non, mais c'est que finalement,
ouais.
Quand tu dis tout le monde a son prix, etc., moi, je pense pas.
Okay.
Moi, j'ai un projet. C'est le projet de ma fin de carrière, ou à peu près, mais peut-être pas. Là, mais
t'arrêteras jamais.
Mais je pense que j'arrêterai jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, OK, c'est le projet qui me fait le plus plaisir parce qu'il correspond partout à mes expertises et expériences dans ma vie.
C'est un beau leg, en fait. Là.
Bon, puis j'ai le goût de le faire.
Ouais.
Puis je sais très bien que si quelqu'un vient dans l'actionnariat, je vais être obligé de dealer avec ça. Ça va diluer mes idées puis mes volontés. Puis moi, je veux pas faire ça. Alors, de toute façon, en passant, j'avais deux autres options. Fait que ça s'est réglé comme ça. Mais c'est sûr que quand on a fini l'appel, je me disais, je suis quand même en train de passer à côté d'un deal avec une personnalité d'affaires mondialement connue, qui est milliardaire et qui connaît vraiment la business. Et j'ai dit non à ça. Puis ça ne m'a pas pris beaucoup de minutes là, pour dire, ah, c'est parfait, on laisse ça de même. Parce que je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour le réaliser.
Voilà.
Et je sais que si j'amène des partners, là, je vais les traîner comme un fardeau, puis ça va être trop lourd.
Louis, on va devoir faire une très courte pause. Je rappelle que ce soir, on est avec l'entrepreneur Louis Mascotte, le publicitaire, l'homme d'affaires, le spécialiste en marketing. C'est le gars des Géolagons. Géolagons.com?
Oui,
Géolagons. Si vous voulez en savoir plus sur ce fabuleux projet. On fait une courte pause, puis on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le soir.
Boulevard 102.1 est fier de supporter les événements et les athlètes d'ici. Samedi et dimanche, assistez en grand nombre à deux compétitions qui promettent d'être impressionnantes et encouragez vos athlètes de l'équipe canadienne.
Salut, ici Louis Irving, médaillé olympique en saut à ski acrobatique. Je vous invite à assister aux deuxième et troisième étapes du circuit de la Coupe du monde au centre de ski Le Relais. Skieur ou pas, on vous attend les 21-22 janvier prochains.
Vous allez voir, ça va vraiment être impressionnant. Une invitation de Boulevard 102.1.
Besoin d'un nouvel escalier? Que vous soyez du style moderne ou classique, profitez d'un grand choix d'escaliers, garde-corps et d'essence de bois. Pour vos petits et grands projets, escalierdelachaudière.com. En ascension depuis plus de 30 ans.
Offrez-vous un chez-soi à votre image avec les habitations Côté, entrepreneur général en rénovation résidentielle. Salle de bain, cuisine, patio, aménagement d'étage, confiez vos petites et grandes rénos aux habitations Côté. Secteur Québec, Lévis et Lobinière. Soumission gratuite. Trouvez les habitations Côté sur Facebook et Instagram.
Jusqu'au 31 mars, achetez votre propriété avec moi, Marilène Côté-Gaudreau, courtier immobilier Remax, et gagnez votre déménagement ainsi que plusieurs autres prix en collaboration avec Construction Michel Daigle, Armand Perrault-Boucherie, Erika Design. Concours.marilenecourtier.com.
Même sous zéro, tout le monde veut manger chaud. Commandez chez Ben et compagnie et faites-vous livrer par des pros du poulet rôti, toujours chaud, ben chaud. Ben, ben chaud. On vous l'a-tu dit que c'était chaud? Ben et compagnie, votre voisin vraiment généreux.
Crack Media, c'est du pur, du franc, du vrai, du grand. On calcule, on stimule, on allume des milliers de sites en simultané.
Des adultes qui fabulent sur des idées qui deviennent réalité.
On va se le dire, c'est peu banal, rien qu'inégal, ce sentiment que tout est à refaire, que tout est à gagner.
C'est ton tour d'appliquer. Crack Media.
Vape Depot, la plus grande chaîne d'articles pour vapoteurs au Canada. Vapedepot.ca, plus de 45 magasins au Québec et en Ontario. Vapedepot.ca, un service de qualité supérieure. Visitez-nous sur le web pour savoir comment vous procurer nos produits au Vapedepot.ca. Franchise disponible.
Aliments du Québec est à la recherche de la meilleure recette mettant en valeur les aliments d'ici. Vous rêvez d'animer une émission de cuisine? Vous adorez cuisiner avec les aliments d'ici? Vous possédez une recette qui fait l'unanimité? Faites rayonner votre recette auprès de toute la province. Les gagnants présenteront leur recette lors d'une capsule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux d'Aliments du Québec et remporteront une carte cadeau d'épicerie de 250 $ en plus d'une expérience de tournage inoubliable. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour participer. Rendez-vous au alimentsduquebec.com.
Une batterie qui tombe à plat en plein hiver, c'est juste bien plat. Évitez ça en passant nous voir avant le 15 février chez Des Harnais Pneus et Mécaniques. On va vérifier la batterie et le système de charge de votre véhicule gratuitement. Des Harnais, c'est juste parfait.
Dans les parties de famille, il y a toujours un cousin qui a quelque chose à vendre. Si le tien t'a convaincu puis qu'il était intéressant pour vrai, dis-lui de postuler en vente chez YouEat, une entreprise de Québec de logiciels de commande en ligne pour les restos. YouEat, UEAT.io pour postuler.
Une douleur inattendue vient gâcher votre journée? Essayez Génacol Action Rapide, une nouvelle alternative naturelle pour soulager rapidement la douleur. Génacol Action Rapide agit comme un analgésique pour réduire temporairement vos douleurs musculaires et articulaires. Il est cliniquement démontré qu'il soulage l'intensité des douleurs musculo-squelettiques sévères en seulement 3 heures. Profitez-en! Génacol Action Rapide est en promotion chez Jean Coutu jusqu'au 18 janvier.
Génacol, tu me fais du bien!
Entre les devoirs, les commissions, les cours de karaté, bouffe et compagnie, c'est la solution parfaite pour les soirs de semaine pressés avec ces délicieux repas frais, prêts à réchauffer. Quand vous avez de la broue dans le toupette, pensez bouffe et compagnie. Nouveau menu chaque semaine. bouffeetcompagnie.com.
Vous êtes en emploi et souhaitez vous perfectionner à peu de frais, en peu de temps? Découvrez nos cours de perfectionnement à temps partiel spécialement adaptés pour rehausser vos compétences. Tous les détails au vousbrillez.ca. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Nous éclairons, vous brillez.
Le groupe Pouliot Jarry de la Financière Banque nationale Gestion de patrimoine est fier d'appuyer les soins palliatifs du Centre Mère Enfant Soleil. Il profite de l'occasion pour remercier ses clients de leur confiance et leur fidélité et souhaite à tous une belle année 2023. Groupe Pouliot Jarry, votre patrimoine, notre priorité.
La mécanique t'intéresse, mais tu n'as pas la formation? Joins-toi au groupe Labri en tant qu'aide mécanicien. Nous t'offrirons la formation pour devenir mécanicien hydraulique chez nous. Tu pourras développer tes compétences, apprendre les meilleures pratiques tout en étant payé pour le faire. Choisis ta carrière. Visite groupelabri.com.
Michel, tu fais quoi avec ton cadenas?
J'aime tellement l'hiver, je verrouille le thermostat à 14. L'hiver, c'est vivifiant.
Si t'aimes autant l'hiver, tu devrais verrouiller ton taux pour ta Hyundai neuve.
Verrouiller mon taux? Comment?
En commandant une nouvelle Hyundai. Pendant l'événement J'aime l'hiver, Hyundai garantit ton taux avec leur protection de programme.
C'est bien cool, ça.
En effet. Puis on aurait les sièges chauffants, le volant chauffant, le démarrage à distance BlueLink, vu qu'il fera pas chaud chaud dans la maison cet hiver. On peut-tu mettre ça à 16?
Ouais. Oh. La combinaison. C'est quoi ta date de fête déjà?
Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Ce soir, on est avec Louis Mascotte qui est avec nous en studio pour une heure. Sérieux, je l'apprécie, ta présence pendant une heure. C'est rare qu'on a la chance d'être capable de s'arrimer avec des personnalités de la grande région de Québec qui ont fait beaucoup jaser. Bien souvent, ces gens-là disent « Tabarouette, 50 minutes, 60 minutes, c'est un peu long, j'ai des journées extrêmement chargées. »
C'est pas assez.
Je te remercie d'être là ce soir, c'est très intéressant. Tantôt, t'as glissé très rapidement que t'es un enfant adopté, c'est ça?
Non. C'est-à-dire que mon père, on était quatre enfants, moi j'étais le bébé.
Ouais.
On est encore quatre enfants et je suis le bébé. Mais on vivait avec mon père et finalement, j'ai eu une nouvelle maman.
Okay.
Et ça a été une femme absolument extraordinaire et qui m'a reçu dans sa vie à partir de l'âge de 7 ans.
Wow.
Et je l'ai adulée et adorée. C'est sûr que dans l'adolescence, ça a été plus rock'n'roll, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ça a été une femme vraiment exceptionnelle.
Ouais, c'est un modèle pour toi, un modèle féminin, du moins.
Oui, ça a été un modèle de générosité.
Ouais.
Puis je pense qu'elle m'aimait plus que les autres. Non, non. non, mais tu sais, j'étais turbulent. Moi, je suis un hyperactif.
Ouais.
J'étais un enfant qui ne suivait pas beaucoup les règles. Et je l'ai trouvée très généreuse avec moi, même si je ne suivais pas les règles, même si il y avait quelque chose, il y a un vrai lien qui s'est créé.
Ouais. Tu as toujours conservé ce lien-là jusqu'à tout récemment?
Ben oui, en fait, finalement, elle est décédée de l'Alzheimer et c'est pour elle que j'avais inventé le bracelet Alzheimer à cause de ce qu'on avait vécu.
Ouais.
Et mon père est allé la voir pendant 10 ans, tous les jours. Tous les jours, sans exception, il allait la voir. Et il lui apportait un cœur de Bruxelles, qui est un cœur de chocolat, que je lui apportais d'Europe. J'avais des bureaux en Europe à l'époque. Et oui, non, ça a été... Je trouve que quand on est spectateur d'un amour qui n'est pas... écoute, il n'y a pas de lien de sang. Là.
Non.
Mais c'était... Wow! C'était magnifique. Ça a été vraiment une maman formidable. Elle s'appelait Margot, je la salue.
Ben, elle est responsable de la personne qui était aujourd'hui, j'imagine.
Ben, mon père aussi, bien sûr. Puis mes frères et sœurs, puis tout le monde autour de moi, c'est sûr. Mais okay. Moi, j'ai eu de la chance dans la vie. J'ai toujours de la chance. C'est vraiment...
En fait, on fait notre chance. C'est souvent... c'est drôle.
C'est une théorie,
c'est une théorie. En tout cas, moi, j'y adhère. Là, je m'en vais en voyage dans quelques mois avec des auditeurs que j'amène. Puis il y a des gens qui disent « Ah, mais t'es chanceux. » Si je commence à travailler à 6h du matin, je reviens chez nous à 19h, 20h le soir, je suis vidé, j'ai 3 jobs. Tu sais, j'essaie de bâtir mes affaires de façon à ce que ça fonctionne bien ma vie puis que je sois pas dépendant de rien. Tu sais, j'ai pas la même indépendance que toi, là, mais j'aspire à être indépendant.
C'est relatif, mais...
Un jour, mais quand on me dit « Hey, ouais, mais t'es chanceux, toi, tu t'en vas en voyage, tu sais, 3 fois par année. » Ouais, mais sauf que le reste du temps, par exemple, je travaille comme un cave.
Oui, je comprends sur cet aspect-là. Non, moi, je te disais plus que je suis chanceux dans la vie parce que, je l'ai déjà expliqué d'ailleurs, mais les plus grandes chances de toute ma vie, je les ai eues au milieu de mes plus grandes malchances. Exemple, un jour, j'ai une tumeur qui a éclaté dans ma moelle épinière. C'était une question de minutes et d'heures pour que je meure.
Oh, OK.
Je devais prendre l'avion pour aller au bureau à Paris. Ma femme, ma blonde et sa mère ont insisté pour pas que j'y aille. Et j'ai finalement, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils ont découvert que j'étais évidemment en situation dramatique. J'ai eu la chance que ça se passe là, en plein milieu d'une très grande malchance. Et ça, je suis spectateur de ça. On est spectateur de notre vie, on ne décide pas tout. Et ce que je remarque, c'est que quand c'est très, très, très difficile, le vent tourne. Il y a une chance qui arrive. C'est la même chose aussi dans des grands projets. Et ça, je trouve ça beau. Puis moi, je suis très détaché. Tu sais, tantôt, on parlait de lâcher prise.
Oui.
Je suis comme ça. Je fais mon maximum. Je me couche fatigué le soir, comme je dis tout le temps. Mais je pars un projet, je vais me donner à fond. Puis à un moment donné, là, je lâche les cordes. Puis là, je me dis, OK, on envoie ça dans le cosmos. C'est ça qui est arrivé avec le Géolagon. J'aurais jamais pensé que ça allait faire le tour du monde de cette façon-là.
Ouais.
J'aurais jamais pensé que... Mais je sentais que ce projet méritait d'être mis en lumière mondialement et je suis certain que je vais y arriver et qu'on est en train de faire pas juste une opération immobilière pour des investisseurs qui achètent un chalet, qui sont très contents parce qu'ils vont le mettre sur Airbnb à côté du massif ou à côté d'un centre de ski. Là. Ils vont avoir contribué à quelque chose de plus grand.
Qui va être historique.
Qui est autosuffisant complètement en énergie. Puis ça me fait... Tripé.
J'y crois. Ton cancer, quand on t'a annoncé que tu avais le cancer, ça a-tu remis certaines choses en perspective dans ta vie? As-tu changé des choses suite à cette annonce-là?
J'avais eu ma tumeur dans la moelle épinière pendant 7 ans. J'avais souffert beaucoup.
Ouais.
Des nerfs sectionnés, puis personne ne savait ce que c'était. Puis finalement, ça s'est mis à saigner dans la moelle, donc on a compris que c'était ça.
Ouais.
Quand le cancer est arrivé... Moi, c'est après, hein. C'est un autre cancer, c'est une autre affaire, c'est ça, c'est une autre maladie. Quand ça s'est arrivé, honnêtement, j'ai dit, OK, viens-t'en, viens-y, on va régler ça.
T'étais prêt?
Oui, puis ça s'est très bien passé. Moi, j'ai eu un cancer heureux. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est tous les médicaments. Puis,
c'est raide, hein?
C'était raide, mais c'était pas raide comme bien du monde. Puis, tu vois, dans une semaine ou deux, je vais être en rémission complète. Puis, je suis très fier, encore une fois. Je suis super chanceux. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce cancer-là? Quatrième bébé. On a dit, garde, on va profiter de la vie, on va se faire un dernier bébé.
Attends, tous les médicaments que tu prenais qui t'affaiblissaient, as-tu trouvé le moyen de faire un quatrième bébé?
Comment on appelle ça? Un bull? Un quoi? Un Starbucks?
On va l'appeler notre Starbucks québécois.
Mais c'était, mais ouais. Honnêtement, ça aurait été un rendez-vous manqué.
Ah oui.
Puis on s'est fait une quatrième fille. Et ça a été pour moi une bénédiction. Puis quand je dis que j'ai eu un cancer heureux, je sais que ça fait bizarre. Il y a des gens, je me souviens d'avoir croisé des gens dans un restaurant qui me demandaient comment ça va, Louis. Tu sais, puis moi, j'en parle pas. Hein. Mettons, je suis bien malade, je le dis à personne. Après, je vais le dire, je vais le partager parce que j'ai envie de faire savoir aux gens que ça se peut de traverser des moments difficiles puis de garder le sourire. Mais sérieusement, moi, j'ai vraiment vécu ça happy en me disant, regarde, si c'est fini, puis si c'est pour aller mal, on va en profiter jusqu'à la fin, c'est tout. Puis regarde, je suis chanceux. C'est tout le temps ça, la chance qui me sourit. Puis je le prends pas pour acquis, mais je vois bien que j'ai une bonne étoile. Alors, en même temps, pour en avoir parlé avec mon oncologue, je crois que si tu t'inquiètes, tu te stresses, tu dors pas, tu t'épuises, la maladie peut te bouffer pas mal plus que si tu lâches prise, comme un gars qui attache sa ceinture ou qui ne l'attache pas. T'as entendu l'histoire de quelqu'un qui n'est pas attaché en auto puis qui passe à travers la vitre puis qui est, tu sais.
Ouais.
Moi, je me dis que c'est pas un bon exemple du tout que je te donne.
Non.
C'est pas grave, je suis capable de m'en rendre.
J'imagine qu'il parle du gars chaud qui est pas attaché et qui réussit à s'en sortir.
Non, mais c'était plus quelqu'un qui dort.
OK, voilà. Ah oui, ça se prend.
Arrive bien. L'impact, bon. Tu passes à travers la vitre puis t'es comme t'es mou, t'es bon. Ben moi, je crois que face à la maladie grave, si tu t'inquiètes, tu dors pas, tu t'oxydes, tu t'épuises, la maladie peut te bouffer plus que si tu réussis à lâcher prise. Puis là, on parle vraiment de philosophie. On parle de spiritualité. On parle d'une façon de prendre la vie. Tantôt, au début de l'entrevue, tu me disais gérer les difficultés et les moments. Il faut accepter que c'est difficile. La vie, elle est difficile. Mais elle est beaucoup moins difficile dans un pays comme ici, comme le Canada, que...
Ça, on s'en aperçoit quand on voyage. Mais si on est ici, on trouve donc bien qu'on est, que c'est difficile de vivre ici. Le climat est particulier.
C'est ça, mais ça n'enlève rien... À ta difficulté.
Ouais.
Que des gens aient plus de difficultés que toi, si toi, t'en as une. Faut pas la nier, là. Faut pas faire de déni. Mais en vérité, c'est normal que les choses soient difficiles, puis on a la chance d'être dotés, nous, les humains, d'intelligence. Puis l'intelligence, c'est la capacité à trouver des solutions à des problèmes. Puis en passant, c'est probablement la patente la plus fun au monde de voir un problème, de le solutionner,
ouais.
De le montrer aux autres, puis que les autres aient moins de problèmes grâce à toi. Ça aussi, c'est le fun.
Oui, bien souvent, ça, c'est la vraie paye.
Bien, c'est ça.
Et dernière question que j'avais à te poser, puis je ne me l'ai même pas mis sur mon cue sheet. J'avais ton nom et ton titre. Tu es indépendant de fortune. Tu as fait 1001 projets. Tu as eu du succès en affaires en raison de la personne que tu es. Tu vas toujours continuer de travailler. Je ne te connais pas bien, mais à te voir aller, j'ai l'impression que tu vas travailler jusqu'à la fin de tes jours, que ce soit pour tes projets à toi, pour le projet de les projets de tes enfants. C'est quoi ta relation avec l'argent, Louis? Tu sais, tu pourrais arrêter du jour au lendemain puis aller, je sais pas, moi, comme l'ancien propriétaire du Cirque du Soleil, t'acheter un île puis dire, regarde, moi, je bâtis ici mon paradis, puis c'est ça.
Ouais, mais attends, j'ai deux, trois affaires à dire. La première, être indépendant de fortune, c'est relatif à chacun.
Ouais.
Oui, j'ai été indépendant de fortune. L'argent, c'est exactement comme les vagues sur la plage. Ça vient, ça part, selon tes décisions. Avant que je débute le projet de Géo Lagon, j'étais très confortable. Là, j'ai pris beaucoup d'argent que j'ai risqué. Et sais-tu quoi? Ça va revenir très bientôt. Là. Je le sais, j'ai tout planifié mes choses. Ma relation, d'abord, avec l'argent, c'est une relation qui est en partie une récompense qui me donne le gaz pour aller vers de nouvelles destinations. Si tu ne fais pas de profit dans tes projets, tu ne feras plus de projets.
Exact.
Si tu n'as pas de profit dans ta poche à risquer pour un projet, tu n'en feras pas. Donc, il faut faire de l'argent, c'est normal quand tu es entrepreneur. Okay? Deuxième chose, la question, est-ce que tu vas travailler toute ta vie? J'ai envie de te répondre que j'ai pas eu le sentiment de travailler. je m'amuse. En ce moment, c'est le meilleur exemple. J'ai une énergie monstrueuse pour driver un projet en ce moment et je ne sens pas que je travaille. Je m'amuse. Puis je défends mon idée, puis je défends mon projet. Puis dans ça, il n'y a pas du tout l'aspect négatif du travail. Au contraire, c'est le bonheur, je trouve. Puis non, j'arrêterai jamais. C'est certain, certain, okay.
Mais pour toi, l'argent ne semble pas être une motivation. Elle te sert simplement à réaliser d'autres projets.
J'avais absolument rien quand j'ai commencé, puis j'étais très heureux. Et il faut manger, il faut élever nos enfants.
Ouais.
Mais j'aime mieux passer du temps à les faire rire, les amuser. Je suis prêt à faire plus en termes de travail et d'heures pour leur offrir des choses. Mais moi, personnellement, honnêtement, je n'ai pas nécessairement besoin de grand-chose. Puis je te dirais que de toute façon, quand tu as mangé tes trois repas dans la journée, puis tu as un toit, puis tu as... L'argent, c'est la clé pour innover et créer des nouveaux projets qui vont rendre des familles heureuses puis qui vont travailler dans des grands projets qui les rendent heureux. C'est ça le principe. Tu as beau avoir 100 milliards, si tu n'es pas bien avec toi-même, puis si tu ne t'amuses pas du matin au soir en faisant des projets, je suis désolé, mais